Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans cet épisode d'inauguration de la nouvelle saison de notre très attendue et riche série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, notre invité nous embarque dans les chemins sinueux et colorés du paysage guidé par l'humain. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs?
Je m'appelle Julien Gaïdra, je suis paysagiste et cuisinier. J'ai commencé mes études avec du chant lyrique, je voulais être chanteur lyrique. Je voulais être contre-ténor professionnel. Et puis, j'avais des problèmes techniques et c'était un peu compliqué, c'est un métier compliqué. Donc, je me suis retournée vers ma première passion qui était la biologie. Et j'ai cherché un métier un peu plus concret où je voyais le résultat de ce que je produisais. Et donc, j'ai décidé d'intégrer l'école du Breuil à Paris pour faire des études d'aménagement paysager. J'ai commencé par un BTS en apprentissage et ensuite une licence professionnelle éco-pure qui était en lien avec l'Université Paris-Sud et le Muséum d'Histoire Naturelle. Et c'est particulièrement à ce moment-là que j'ai fait des rencontres exceptionnelles, notamment Coriandre Prudhomme qui présente cet épisode. Et c'est des rencontres qui marquent une vie et qui donnent envie en fait de continuer le métier, même si des fois c'est difficile de s'accrocher dans les conditions actuelles d'exercice du métier, de l'écologie. Donc j'ai commencé ma carrière à Paris et très rapidement en fait j'ai eu une nécessité de retour aux sources et mes sources elles sont dans le Vercors où j'ai grandi et maintenant je porte des petits projets de paysage, j'aménage des petits jardins, des terrasses, je fais la conception, la réalisation, je design un petit peu les espaces verts pour des immeubles, des petites places. Je suis à la fois plus sur un public je suis plus sur des clients privés, mais je suis très intéressée par les espaces publics puisque c'est une échelle que je trouve plus intéressante. Elle profite à plus de monde. Et en parallèle de mon activité de paysagiste, je co-gère également un gîte qui s'appelle Les Arnaux, un gîte de groupe où je fais principalement de la cuisine pour des groupes très variés, donc des séminaires d'entreprise, des stages de développement personnel, des fêtes de famille. Et également, je m'occupe des jardins, je fais la conception, la réalisation et un peu d'entretien. Très agréable de voir les jardins grandir. Je m'occupe aussi de l'accueil, de la communication.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en trois mots? Un goût, une odeur, une couleur, une texture?
Moi, quand je pense au vivant, la première chose qui me vient, c'est la respiration. C'est ce qui nous habite pour la plupart des êtres vivants. Ça part de l'infiniment petit, ça part des bactéries qui ont besoin d'oxygène également. Des poissons, des végétaux, des êtres humains, des animaux. Je trouve que c'est vraiment la respiration qui fait qu'on a vraiment un côté extrêmement organique. C'est quelque chose de vivant, on ne le réfléchit pas. C'est très primaire, c'est très instinctif. C'est ce qui nous constitue, moi, c'est vraiment ce que je trouve qu'on n'a pas à réfléchir. Et c'est magnifique, en fait, de voir qu'on fonctionne. Ça nous met en mouvement, ça met en mouvement chaque molécule de notre corps. Ça nous fait vraiment... Ça nous fait vibrer, ça nous fait rayonner. Donc, c'est vraiment la respiration que je mettrais en premier. Mais c'est aussi le vivant, c'est une expérience, en fait. C'est une sensation. C'est une sensation d'être vivant. C'est faire partie d'un cycle. C'est d'avoir une vitalité, d'avancer, d'exister. Et pour moi, le vivant, ça s'entretient, ça se pratique en observant un peu le fonctionnement des humains, des non-humains. de voir comment fonctionne ce cycle. Et c'est aussi le vivant, c'est pas nouveau, mais on se rend bien compte qu'il faut en prendre soin, que ça va pas de soi. Il faut prendre soin du vivant, il faut prendre conscience aussi de la chance que c'est d'être en vie, de connaître la vie. Juste en termes de probabilité, c'est complètement hallucinant d'être en vie et c'est magique. Il y a une vraie forme de magie, et je veux dire, il y a une science, il y a une science de la vie, mais il y a aussi cette magie-là qui aura toujours des facettes inexpliquées, inexplicables. En tout cas, je l'espère. Je trouve que c'est ce qui fait la beauté de tout ça. Si je devais donner une couleur, ce serait le vert, évidemment, avec toutes les nuances possibles, principalement parce que j'adore les végétaux, c'est mes êtres vivants préférés et de loin, qui sont pour la plupart très très verts, mais si je dois en citer trois, je dirais le vert d'eau, le vert tendre, le vert mousse. L'odeur pour moi du vivant, c'est caractérisé par l'odeur du sous-bois, qui sent vraiment l'humus, et j'ai une image olfactive où je suis sous les buis et les pins dans mon Vercors, où je vais à la cueillette de champignons, des trompettes chanterelles dans la fraîcheur de l'automne, des premières gelées. Je trouve que c'est vraiment une odeur très caractéristique, très pure. Si je devais donner un son du vivant, ce serait le son du peuplier tremble, le Populus tremula, qui a des feuilles qui ont un très long pétiole. La tige, en fait, est aplatie et légèrement tordue, ce qui fait qu'au moindre coup de vent, la feuille change d'orientation et elle crée vraiment une très douce musique. Sur le goût, j'ai tout de suite pensé aux aromatiques. C'est incroyable la puissance du goût qu'elles peuvent donner, principalement en cuisine. Je m'en sers énormément. Si j'en cite, ce serait le romarin et l'origan, mais de très très loin. Je les utilise partout. Ça affine, ça agrémente les plats. Je trouve que c'est très très fort, très puissant. Quant à la texture, ça me ramène en fait à la passion que j'avais quand j'étais adolescent, l'aquariophilie. Et parmi les plantes, qui étaient déjà un peu ma passion, Cladophora aegagrophila, c'est une pelote d'algues qui a une texture terriblement douce. Si j'étais un animal aquatique d'eau douce, ce serait l'équivalent du plaid. Donc en fait, j'aurais vraiment envie d'y passer beaucoup de temps.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
C'est une question complexe. J'ai eu beaucoup de mal, en fait, quand j'ai commencé mes études et quand j'ai commencé ma pratique de paysagiste, avec l'idée, pour gagner sa vie, de devoir aménager les espaces, de modifier les équilibres, de changer les fonctionnements, voilà, de dessiner. En fait, dessiner, c'est pas anodin. Et donc, c'est difficile parce que j'ai envie d'avoir une vision très pure du vivant, d'être dans le respect, et je trouve que c'est assez difficile. En fait, on doit souvent produire un résultat, acheter des matériaux. En fait, c'est absurde, mais en fait, le paysagisme tel qu'il est pratiqué par énormément d'entreprises, c'est du commerce. On se rémunère sur du temps passé à faire des choses. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment très, très dur pour moi. Et pour me sentir un peu plus en cohérence, du coup, avec ma vision du vivant et particulièrement avec les problématiques actuelles par rapport au réchauffement climatique, etc., j'essaie de privilégier toutes les pistes d'aménagement qui soient les plus sobres en effort. Pas sobres juste parce que je vais faire uniquement la conception et que la réalisation, je la délèguerai. C'est vraiment d'imaginer des espaces qui soient les plus sobres possibles, où on ait fait le minimum d'efforts pour le maximum de résultats, au moins visuels, mais aussi dans le fonctionnement écologique des lieux. Et donc, ce que j'aime à dire, c'est une petite formule que j'aime donner à mes clients, mais c'est que on a pour vocation de faire plutôt du remue-ménage que du remue-ménage. Pour me sentir un petit peu plus en cohérence, j'essaie de, tant bien que mal, ça dépend des échelles, des projets, mais de créer des micro-milieux écologiques, donc créer des strates différentes, différencier des strates herbacées, des strates arbustives, et alors quand l'échelle le permet, et ça c'est assez rare dans mes petits projets, mais de planter des arbres, on doit célébrer le vivant à des échelles de plus en plus grandes. C'est pour ça que pour l'instant je travaille à des petites échelles, mais je sens bien que ça peut créer un peu de frustration, parce que je pense que l'humain, là, aujourd'hui, doit prendre en main, doit respecter le vivant et doit lui laisser une place bien plus importante que ce à quoi on est habitué. Et donc, de tendre vers une forme de beauté et de poésie et d'imiter un peu le vivant, d'imiter le hasard du vivant, d'imiter ce qui se passe dans un talus, dans la nature, où il y a quelques graminées, quelques fleurs éparses. Et en fait, si on regarde, si on s'approche et juste si on s'arrête, c'est suffisamment splendide. Et peut-être qu'il ne faut pas faire grand-chose.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Question difficile également, sans se juger en tant qu'espèce humaine. Mais je crois que pour apporter quelque chose au reste du vivant, il faudrait déjà changer drastiquement de direction, profondément. Peut-être qu'il s'agirait de décider de prendre plus soin des habitats écologiques qui nous entourent, qui existent encore, il y en a, de limiter notre empreinte sur le monde, de retrouver un peu d'humilité, de sortir d'une vision suprémaciste de l'humain sur le vivant, qui est quand même très très caractéristique de notre culture européenne, des pays industrialisés. Et en attendant, qu'est-ce qu'on pourrait apporter au reste du vivant ? Pour moi, ça se positionnerait plus au niveau d'un engagement politique. C'est accepter de prendre le pouvoir pour que cette marche du monde un peu forcée dans laquelle on est tous inscrits malgré nous, en fait, change. Décider de prendre la direction de notre présent et de notre futur proche.
On va passer à la question d'actu. Le précédent épisode Feuilles de chou, qui a été diffusé semaine dernière en podcast sur le site de notre radio PFM, portait sur la publication d'une étude scientifique dont je te fais un bref résumé. Dans le contexte actuel de déclin des pollinisateurs, cette publication expose une recherche où des chercheurs ont comparé des individus d'une même espèce de plante à fleurs à travers les âges. Ils ont donc pris des violettes des champs, des années 90, 2000 et 2021, ils ont regardé les différents aspects physiques de ces plantes et notamment leur mode de reproduction. Et cela a mis en évidence que cette plante a engagé un processus d'autofécondation sur plusieurs des individus étudiés. De même, il est démontré que les insectes sont moins attirés par ces nouvelles fleurs et que ce processus est concomitant avec la raréfaction des pollinisateurs. Ainsi, la question se posant à la fin de cette publication est qu'advient-il des autres plantes à fleurs ? Ont-elles, elles aussi, décidé de survivre coûte que coûte, avec ou sans insectes ? On remet aussi en perspective de nombreux phénomènes décrits en écologie scientifique et mettant en avant que ce processus est un processus de rétroaction, engageant d'autres processus et amenant dans tous les cas étudiés sur des millions d'années d'existence du monde végétal une disparition de l'espèce et une mise en danger des écosystèmes dont elle fait partie. C'était un peu compliqué de résumer cette grosse publication en si peu de temps, mais à la lumière de ces quelques informations, que penses-tu de tout cela ?
J'aurais envie de caler une minute de silence dans ton podcast. Ce serait un peu la moindre des choses. J'ai envie de me mettre déjà à la place des pollinisateurs et de me dire que c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle pour eux. Ça veut dire moins de nectar, moins de nourriture, moins d'interaction avec les plantes qui étaient leur habitat. Et c'est ahurissant d'imaginer qu'en peut-être 150 ans d'industrialisation avec le pétrole, etc., qu'on ait réussi à modifier les cycles biogéochimiques de cette planète, de cette biosphère qui est quand même une couche extrêmement mince, extrêmement incroyable de probabilité d'existence de vie sur cette petite couche. Et ça pose vraiment énormément de questions pour moi. C'est déjà au-delà de la place des pollinisateurs, de leurs interactions, c'est aussi de se dire déjà dans l'absolu, c'est important d'avoir une diversité dans le vivant, c'est vraiment la valeur intrinsèque de cette diversité. Et on se place toujours en tant qu'humain en se disant à quoi nous servent de toute façon les pollinisateurs. Bon bah oui, dans notre jardin c'est important, mais il n'y a pas que les services de la biodiversité, c'est vraiment déjà en soi, c'est magnifique cette diversité. Donc il faut tourner un peu la question d'autres manières et essayer de voir comment on peut faire pour essayer d'éviter que cette boucle de rétroaction continue, que ça aille toujours dans ce sens de la destruction. Je trouve que c'est vraiment monstrueux. Et à la fois, je me dis qu'en 30 ans, c'est incroyable de voir que le végétal réagit aussi rapidement, qu'il a trouvé des solutions de repli pour se protéger en tant qu'espèce, pour continuer à vivre, pour continuer à exister, pour continuer à garder sa place, tant pis pour les autres. Ça me fait écho un petit peu avec nos comportements humains dans les pays industrialisés. C'est vraiment la course à l'individualisme, une forme de corporatisme. Et je trouve que c'est assez étrange, en fait, de voir ce comportement des plantes qui n'ont pas d'autre choix. Est-ce que vraiment l'individualisme est un choix? Est-ce que le repli sur soi est un choix? Ça pose vraiment toutes ces questions. Il y a une valeur patrimoniale dans le vivant qui n'est pas du tout comme un bâtiment qu'on a envie juste de contempler. C'est un patrimoine qui est toujours en mouvement, qui n'est pas figé. Et là, quand il y a des diminutions de diversité qui s'accélèrent, et moi, ça me crée une véritable inquiétude. J'espère en tout cas que la rapidité d'adaptation de ces végétaux à l'échelle de leur existence sur la planète va leur permettre de nous survivre et de continuer à développer des formes inspirantes de morphologie, sur des fonctionnements, sur l'adaptation au réchauffement, et qu'elles continueront à perdurer, et tant pis si on n'est plus là.
On va passer à l'agenda. Librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
C'est pas nécessairement des références qui sont directement liées aux végétaux, aux plantes, mais j'ai découvert la pensée d'Ivan Illich, qui j'ai lu Énergie et Équité récemment, et ça m'a énormément frappé sur le rapport au transport et à l'aménagement du territoire. J'ai trouvé que c'était d'une modernité et d'une clairvoyance sur énormément d'aspects, donc je recommande très fort cet ouvrage. Après, plus en lien avec mon métier, je trouve que tous les ouvrages de vulgarisation ont vraiment du sens quand ils sont bien faits. Et je pense à La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, qui a été adapté en bande dessinée, et c'est vraiment très puissant, en fait, de voir les images, de pouvoir se représenter à quoi ressemblent des racines, voir quelles sont les interactions entre espèces, comment fonctionne la forêt, l'humus, le sol, les petits animaux. C'est vraiment très, très passionnant. Et encore plus en lien avec le métier de paysagiste, je conseille, et même des fois c'est des clients qui m'en parlent, mais Le grand traité du jardin pomme d'Éric Lenoir, j'ai eu la chance de rencontrer récemment sur une conférence, et je trouve que c'est un regard sur le jardin, sur l'aménagement, qui est beaucoup plus respectueuse que ce qu'on a eu l'habitude d'exercer avant. Ce n'était pas du tout pareil en entreprise de paysage sur Paris. Donc je suis très heureux de voir qu'il y a d'autres mouvements, il y a d'autres pensées. Peut-être que la marche du monde, c'est de ralentir et de voir comment tout reprend possession de ces espaces, que chaque espèce a un rôle par rapport aux autres et pas sur les autres.
Tu y as pêché où, baobab, acajou? Cet épisode aux côtés d'un poète des tiges et folioles prend fin. La semaine prochaine, le vivant réclame notre attention sur de nouvelles feuilles de choux fraîchement cueillies. De palissandre, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.